Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. 36 ans après la publication de La Grande Becquée, roman à succès qui retraçait le destin d'une blanche créole descendante des colons en Martinique, suivie par Le Maître Savane qui racontait le fils, voici le troisième volume de la saga qui paraît sous le titre L'héritière de La Grande Becquée chez Caraïbes Éditions avec cette fois l'arrière-petite-fille Garance. Bonjour Marie-Reine Dejam.
Bonjour Catherine.
Vous êtes l'autrice de cette trilogie et de bien d'autres livres, d'ailleurs on en reparlera. Mais pour commencer, il faut rappeler que vous êtes née en Martinique, que vous connaissez donc bien l'histoire et la culture de cette île. Mais pourquoi avez-vous eu envie d'écrire cette nouvelle suite à La Grande Becquée ?
Parce qu'après 35 ans, j'ai enfin quelque chose d'intéressant à dire. Je voulais aborder la différence qu'il y a entre les Antilles de ma jeunesse avec les problèmes de maintenant. Et je vois les Antilles, la Martinique particulièrement, qui est mon pays, comme un microcosme de ce qui se passe dans le monde. On est au confluent de trois continents, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Et tout ce qui arrive dans le monde se focalise sur la Martinique et assimilé, digéré, repensé. Et ce phénomène m'intéressait énormément de voir comment tout cela est perçu aux Antilles et quel va être le destin de ces petites îles-là dans le grand destin du monde. Bon, ça c'est le côté un peu globaliste que je raconte, mais le côté intime, c'est les Becquées. Qu'est-ce que c'était quand j'étais petite ? Et maintenant, qu'est-ce que ça devient ? Quel est l'avenir ? Et puis, la jeune génération, la génération montante, que va-t-elle devenir ? Et Garance est une personne qui a connu les deux. Elle fait le lien entre autrefois et aujourd'hui.
Si vous voulez bien, Marie-Reine Dejam, avant de parler de la nouvelle génération et de parler de Garance en l'occurrence, est-ce que vous voulez bien présenter à nos auditeurs et nos auditrices qui ne la connaissaient pas, Fleur de la Joucrie, dite la Grande Becquée ?
Fleur de la Joucrie. Son histoire commence en 1902, au moment où le volcan Pelé fait éruption et ravage la ville de Saint-Pierre et tue 32 000 personnes. Les parents de Fleur de la Joucrie, qui s'appelle à l'époque Fleur de Maz, elle n'est pas encore mariée, ont une magnifique propriété qui est entièrement détruite. Fleur est à ce moment en métropole, où elle achève ses études de jeune fille de bonne famille pour revenir se marier à l'âge de 17 ans, comme tout le monde le fait à l'époque. Et elle assiste à l'éruption du volcan Pelé et elle est sauvée par un aventurier américain qui se trouve là en bateau, qui lui sauve la vie et dont elle va tomber éperdument amoureuse et qu'elle va perdre de vue. Fleur va faire un mariage d'intérêt complètement. Elle va se vendre, se prostituer, comme elle dit elle-même, pour arriver à survivre. Et c'est longtemps après qu'elle va rencontrer de nouveau ce Duke, qui va devenir son amant. Donc la vie de Fleur est pleine d'imprévus, d'accidents. Mais il y a trois choses qui dominent dans sa vie. La première, c'est de recréer le domaine qui a été détruit, de refaire son patrimoine. Ce que le volcan lui a volé, elle veut le refaire plus beau, plus grand, et au pied du volcan. Et elle va y arriver. Et pour cela, c'est une lutte à couteau tiré avec tous ses rivaux, masculins pour la plupart. À l'époque, la femme, c'est rien du tout. Donc, ça va être une personne, une femme hors du commun. Son deuxième point important, c'est cet amour qu'elle a pour l'aventurier Duke, le grand amour de sa vie, dont elle va avoir un enfant bâtard, bien sûr.
Illégitime.
Illégitime, oui. Qui va être le rival de ses trois enfants légitimes, trois espèces de hyènes assoiffées d'argent, qui ne pensent qu'à rapidement la mort de leur mère pour pouvoir hériter. Et elle va leur jouer des tours pendables. La troisième chose troisième point d'attache de Fleur, très fort, c'est Daedèse. Daedèse, c'est une petite fille du pays qui a le même âge qu'elle. Elles sont en fait sœurs de lait. Et lorsque Fleur va revenir à 17 ans et qu'elle va se marier, Da, qui a le même âge, va venir la rejoindre. Elle la croyait morte, elle apprend qu'elle est vivante, elle se précipite, elle va la rejoindre. Et les deux forment un tandem qui ne se quitteront jamais.
Alors, est-ce que cette femme qui a quand même ce destin incroyable, très romanesque, très flamboyant, est-ce que cette femme était inspirée de quelqu'un de votre famille ou d'une femme que vous avez connue ?
L'histoire, au plan matériel de Fleur de la Jouxerie, ressemble à celle de mon grand-père, Victor de Paz. Orphelin à 17 ans, à 16 ans même, sa famille anéantie, son domaine anéanti, et qui a refait fortune. Mais ça s'arrête à peu près là. J'ajoute l'amour de la terre, la passion de la terre. Mais j'ai créé le personnage de Fleur de la Jouxerie parce qu'il incarne le rêve des femmes qui veulent s'émanciper. Surtout à l'époque. Mais à l'époque, vous n'imaginez pas comment c'était. C'était bien pire qu'en France. On était prisonnière. Prisonnière complètement de sa famille, de son clan. La majorité, c'était à 21 ans. Et quand on était majeur, on restait dépendant de son mari, de sa famille. Les femmes n'avaient évidemment pas le droit de vote. Elles n'avaient pas le droit de posséder non plus. Donc le personnage est créé. Un rêve de conquête, un rêve d'indépendance, un rêve de domination aussi.
Et en Martinique, quelle était l'importance des béquets dans une île où vous écrivez Marie-Hélène de Jam, qui a 95% de noirs et 5% de blancs?
Oui, pas plus. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est une caste, comme je le dis, une caste orgueilleuse et exécrée. Ce sont les anciens colons. Les premiers colons arrivent à l'époque de Richelieu, et après ça, ils vont être envoyés par Colbert, et ça va continuer comme ça. Et l'esclavage a déjà démarré avec les Portugais, qui ont envoyé des esclaves au Brésil. L'esclavage va atteindre les régions anglaises, et toutes les îles, et en dernier ressort, la France. La France va être le dernier pays esclavagisé. Donc il y a deux castes, deux grandes catégories, avec beaucoup de sous-castes. Les béquets, d'un côté, et les esclaves, de l'autre. Ce qui va donner les descendants d'esclavagistes et les descendants d'esclaves. Un très lourd passé, un très lourd passif. Et aujourd'hui, ça se ressent. Alors, ce groupe d'anciens esclaves, libérés, ils vont absolument explosé au plan artistique, littéraire, et ça va aller très vite. Il y a plus de 50 ans déjà que les grands écrivains, les grands artistes étaient déjà des Noirs, au plan littéraire, musical aussi, et philosophique, et avec Frantz Fanon et ce genre de... Du côté blanc, on assiste à un étiolement, un repli sur soi, et un abandon de ce qui aurait pu faire la grandeur des béquets. Étant donné l'opposition factuelle de leader, ils étaient leaders, donc il en restait quelque chose. Et ce pouvoir qu'ils avaient en main, au lieu d'en faire bon usage pour le développement du pays, pour le bien du pays, pour le bien d'une manière générale, enfin pour l'État, avec une notion de chef d'État, Ils ont travaillé à leur maintien, à leur profit. Et ils ont manqué une grande vocation pour se rabattre sur une toute petite vocation qui est garder les terres, garder le patrimoine, garder l'union dans la famille, garder la pureté raciale, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que les Noirs, peu à peu, les ont évincés. Évincés, ils ont pris le pouvoir, ils ont pris le leadership qu'ils avaient déjà, mais ils l'ont développé. Et peu à peu, ils sont en train de le foutre dehors, carrément.
Et vous, Marie-Reine de Jam, qui êtes de cette communauté Béké, vous disiez à l'instant que c'est une caste qui avait été exécrée. Vous en avez souffert ?
Non, non, je n'ai pas souffert. Je ne peux pas dire ça, parce que je suis partie très tôt. Je suis partie, j'avais une vingtaine d'années, pour vivre à New York, faire carrière à New York, puis à Paris. Et je m'étais jurée de ne plus remettre les pieds à la Martinique, hein, parce que je partais fâchée. Je partais pour me libérer.
Est-ce que votre livre, en 1989, qui était donc l'un des premiers à mettre en scène une femme béké, est-ce que c'était un peu nouveau ? Comment est-ce qu'il a été accueilli à l'époque ?
C'était très nouveau pour moi aussi, d'ailleurs. Et à ma surprise, enfin, je n'avais pas d'a priori, hein, mais quand je suis arrivée à la Martinique, mais les gens étaient tellement gentils, et puis ils en avaient entendu parler. Je me souviens de quelqu'un qui m'a souri en disant « Voilà la grande béquille !» Donc, on m'identifiait un peu à ça. Oui, l'accueil a été bon, très bon.
C'était important de parler de la grande béquille parce que c'est le socle aussi de ce nouveau roman, puisque c'est Garance, l'arrière-petite-fille, qui prend la parole, mais pour reprendre la parole avant, il faut raconter dans quelle famille elle naît, cette ambiance et son regard à elle sur la grande béquée, parce que ça reste un personnage très complexe. À la fois, beaucoup de gens l'admirent parce que c'est une femme déterminée, mais en même temps, c'est une femme qui était dure et qu'on voit évoluer au fil de l'âge, qui a de plus en plus de compassion pour les siens, beaucoup plus d'humanité, qui va d'ailleurs mettre une fondation au service de l'éducation pour toutes et tous, sans différence de couleur. Et tout cela a l'air d'étonner son entourage et la communauté béké. Pourquoi ?
La grande béké, après avoir conquis tout, elle se remet en question et elle revient à l'amour basique du pays et de ses habitants. Et quand je parle de ses habitants, je parle justement des Noirs. Et la fondation et l'école qu'elle crée, c'est une école pour les jeunes Noirs. Elle emmène Garance justement dans un marché, le marché de Saint-Pierre, que je connais bien, et elle lui dit « Regarde tous ces gens, tous ces talents dilapidés. Il y a des talents, il y a une matière première magnifique dans ça. Et je veux en faire quelque chose. » Et elle crée son école où elle prend les petits enfants qui sont déshérités et elle s'en occupe pour en faire des gens, pour en faire des seigneurs, comme elle dit. Elle est partie de la conquête au don. Elle donne, elle aime. Et même au sacrifice de soi. Et Garance va faire le même chemin à sa façon, avec ses propres étapes, parce que Garance, c'est cosmopolite, c'est New York, c'est Paris. Elle va faire la même trajectoire que moi. Vous savez, on écrit toujours d'après ce qu'on a vécu. Hein. C'est ça qui fait la vérité de ce qu'on écrit, en fait.
Alors, on va continuer de parler de Garance avec vous, Marie-Reine de Jam, dans un instant, cette héritière de la grande béké. Pour l'instant, je vous propose de faire une pause musicale. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter, partager avec nos auditrices et nos auditeurs, selon vous ?
Je vous ai proposé un air de carnaval, puisque c'est bientôt le carnaval. Mais par contre, je suis incapable d'en citer un.
C'est pas grave, on va trouver ça dans notre discothèque. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. We'll be right back. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Marie-Reine Dejam, qui vient de publier L'héritière de la grande becquée chez Caraïbes Éditions. Et il est donc temps de parler de cette nouvelle héroïne, Garance, l'arrière-petite-fille de Fleur de Joucry, qui, elle, née en 1945, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la Libération. Est-ce que ça a été une période charnière aussi pour la Martinique ?
Absolument. Parce que après la guerre, c'est le moment où la Martinique bascule dans complètement autre chose. L'époque coloniale est clôturée, définitivement. La population noire découvre son pouvoir. La guerre a libéré des énergies et enfin, ça change le cours de l'histoire complètement.
Et c'est vrai que bientôt, il y aura la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, il y a les indépendances sur le continent africain. J'imagine que tout cela a un impact sur les Caraïbes françaises.
Tout un enchaînement de choses qui se focalise sur la Martinique et qui a chaque fois des répercussions.
Et vous aussi, vous avez été témoin de ces changements ?
J'ai été témoin de ces changements, mais comme je vous dis, j'ai quitté la Martinique à 20 ans. Mais je les ai suivis quand même de New York ou de Paris. Et puis, je vais vous dire que l'histoire a du bon parce qu'elle garde les traces de ça. Donc je me suis documentée beaucoup. Mes souvenirs, les gens que j'ai connus, à qui je parle, et puis tout ce matériel écrit et informatisé que j'ai consulté avidement.
Oui, vous vous appuyez beaucoup aussi sur la pensée poétique et politique d'Aimé Césaire, par exemple, que vous citez à plusieurs reprises.
Je suis une grande admiratrice d'Aimé Césaire. Je trouve qu'il a un talent absolument monstrueux. Et sa manière de sentir les choses, qui est viscérale, et puis les mots qu'il emploie, et puis les audaces qu'il a dans ses mots, c'est absolument éblouissant. Donc, je suis vraiment une fanatique.
Vous disiez tout à l'heure, Marie-Reine Dejam, que vous aviez quitté la Martinique à l'âge de 20 ans.
Une vingtaine d'années, je ne peux pas vous dire exactement.
Pour aller
l'âge.
Faire vos études à New York. Mais pourquoi exactement ? Parce que vous étiez fâchée.
Oui, comme je vous disais, je me suis mariée à 17 ans. Et mon mari avait la possibilité d'aller faire carrière aux États-Unis. Donc j'ai sauté sur l'occasion et nous sommes partis à New York. Et j'ai fait de très brèves études de design dans une excellente école qui s'appelle Parsons School of Design. Et je suis entrée dans la publicité, très bonne agence. Et j'ai fait carrière dans la publicité. Et ensuite, j'ai été virée, envoyée à Paris par mes agences de pub pour les représenter à Paris.
Ça n'explique pas pourquoi vous étiez fâchée.
J'étais fâchée parce que j'étais emprisonnée. Mon mariage avait été un mariage un peu forcé. Ouais, un peu. J'ai été prise dans un engrenage et le mariage a été forcé. Et je me sentais... J'étouffais. Et puis, alors... Pour vous dire, je vais vous parler du personnage de Muriel.
Oui. Qui est dans le roman, qui est la grande concurrente de Garance. Et plus je vous écoute, Marie-Reine Dejam, plus j'entends que Garance et vous avez beaucoup de points communs.
Oui, d'une certaine façon, oui. Mais en tous les cas, je me suis nourrie de mon expérience. Alors, j'étais en classe avec des becquets et des non-becquets. Et j'ai vu... Pendant mes années d'études, monter les non-béquilles. Je les ai vues devenir plus nombreuses et devenir les premières de la classe et prendre de l'assurance. Et les béquilles qui avaient l'habitude de traiter de haut ont été à leur tour traitées de haut. Et j'enviais Muriel parce que je me disais, cette fille formidable qui a tout pour elle, mais elle est libre parce que toute sa communauté la pousse, elle lui dit « vas-y ». On est derrière toi, tu as un oncle à Paris qui est sénateur, parce qu'ils sont dans la politique. On va te ménager des entrées en tel endroit et tout. Vas-y, fonce, libère-toi, venge-nous, venge-toi. Tandis que à la Martinique, c'était le discours absolument contraire. Reste avec nous, fais des enfants, obéis, sois une bonne mère de famille, soutiens les affaires de ton mari, reçois bien. On étouffe dans ça, enfin j'étouffais.
Donc vous étiez prisonnière de votre condition de béquet.
Oui, et de femme de cette époque.
Parce que comme Garance, donc, vous avez épousé un homme de votre milieu, comme s'il était impossible d'échapper à ses origines ?
Oui. Oui, c'est vrai. C'était très difficile d'échapper à ses origines. On était enfermés dans une île paradisiaque, et grisée de parfums, de sons, de fêtes, nous autres béquets à l'époque. Mais pour quelqu'un qui voulait découvrir le monde et conquérir le monde comme Garance, c'était une mutilation, en fait. Donc, Garance et moi-même, nous sommes sentis libérés de pouvoir enfin partir. Et à New York, et j'ai fait comme les Noirs de la Martinique, j'ai explosé. J'ai découvert tout, tout était permis, et je me suis permis tout. Et ça a marché, finalement.
Et vous vous êtes permis l'écriture aussi, justement, Marie-Reine de Jam. Parce que La Grande Béquille, en 1989, vous avez déjà un peu plus de 50 ans.
Oui.
Quand vous publiez, c'est votre premier roman.
Oui.
C'était une envie que vous aviez en vous depuis longtemps, ou c'est justement le fait de partir de la Martinique qui vous a libéré et qui vous a donné envie d'écrire ?
Et l'envie d'écrire, je l'avais depuis mon enfance. Et ça m'est venu comme ça. Comme ça, je ne sais pas ce qui l'a provoqué. Un jour, je me suis mise à écrire La Grande Béquille.
Et vous l'avez fait publier en métropole, d'ailleurs. C'est pas anodin, hein. C'était chez Robert Laffont, éditeur...
Oui, mais c'est tout à fait nouvelle dans le métier de l'édition. Donc, j'avais une amie qui était agent et qui m'a dit, mais on va le présenter. Il a présenté le roman simultanément à Belfort et à Laffont. Et les deux ont accepté.
En revanche, L'héritière de La Grande Béquille paraît chez un éditeur qui est installé aux
choix.
Antilles, Caraïbes Éditions. Alors, racontez-nous pourquoi ce choix.
Parce que ce que j'écris maintenant, c'est un peu comme un testament. C'est-à-dire ce que j'ai découvert, ma trajectoire qui m'a ramenée aux Antilles et à l'amour de mon petit pays natal et à la foi en son avenir. Eh bien, j'ai eu envie de l'exprimer, et le mieux pour l'exprimer, c'était de le faire à travers un éditeur local qui a fait ses preuves et qui a contribué énormément au rayonnement de la littérature créole et des artistes.
D'autant plus qu'on a l'impression que c'est votre moi profond, Marie-Reine de Jam, même si vous ne vivez plus en Martinique depuis longtemps, parce que comme Garance, les États-Unis, Paris, puis Nice, où vous avez créé d'ailleurs le festival de la créolité, ça a duré plusieurs éditions.
7 ans.
7 ans. Et d'ailleurs, L'héritière de La Grande Béquille, comme la plupart de vos romans, est irriguée de langue créole. Les dialogues sont en créole. Pourquoi c'est si important pour vous ?
Mais je ne dis pas que c'est important. J'adore faire ça.
C'est votre langue, d'une certaine façon.
Ça me vient naturellement. Et le créole est savoureux. Il vient des tripes, quoi. Il n'est pas littéraire. Il est de la terre. Il est plein d'humour. Non, il faudrait que je cherche beaucoup mes mots pour pouvoir donner une définition exacte des créoles. Mais c'est unique. C'est comme... Ce que vous me demandez là, c'est de décrire mes gènes, quoi.
Si je résume bien, quand même, Marie-Reine de Jam, vous avez fait quasiment toute votre carrière littéraire en dehors de la Martinique, sans y vivre en tout cas, alors que toute votre œuvre littéraire est consacrée à la Martinique. Aujourd'hui, vous vivez en métropole, mais ça reste le cœur de votre quotidien, de vos sujets de prédilection, d'écriture.
Oui, absolument. Je crois qu'on peut donner deux raisons. Une raison sensuelle, c'est-à-dire que je suis imprégnée, malgré moi, j'en suis heureuse, imprégnée de tout ce que la Martinique représente, que je viens de plusieurs fois décrire. Imprégnée de ça. Et la deuxième raison, c'est que la Martinique, les Antilles, concentrent les problèmes du monde. Là, je rejoins Édouard Glissant. Le tout-monde, il est là, dans la petite lentille martiniquaise. Donc, comme je m'intéressais passionnément à la géopolitique, les grands mouvements qui agitent le monde, etc., eh bien, je les étudie et puis je les regarde à travers le prisme des Antilles. C'est un exercice fascinant.
Mais est-ce que vous y retournez parfois ?
À la Martinique ?
Oui.
Ça fait des années.
Est-ce qu'avec cette publication chez Caraïbes Éditions, justement, vous allez pouvoir vous déplacer pour aller présenter l'héritière de la Grande Béquée là-bas ?
Très bonne question. Il paraît que je risque d'être très mal accueillie parce que je suis une béquée.
Donc il y a encore des distensions entre les communautés ?
Ah oui, énormément aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas au courant de l'actualité ici, si vous faites semblant. Il se passe des choses épouvantables. Jamais ça n'a été à ce point explosif.
Mais vous aimeriez quand même y retourner ?
Oui, j'ai pas peur. J'aimerais, effectivement. Mais je laisse Florent Charbonnier, l'éditeur. Il connaît le pays, il connaît tout le monde. Et il a prouvé en 17 ans qu'il sait faire. Donc je le laisse faire.
Mais peut-être que la littérature et la sincérité de vos écrits peuvent toucher le lectorat en Martinique.
C'est tout ce que je souhaite. Je voudrais faire du bien, que ce livre, c'est un livre qui se termine par beaucoup d'espoir. Je crois que cette jeunesse qui est en train de se chercher est en train de fuir l'île, parce que les talents fuient l'île, qu'elle revienne et qu'elle fasse des choses, qu'elle fasse pour l'écologie, pour tout ce qu'il y a à faire, produire, que l'île produise elle-même des choses. Il y a mille et mille choses à faire. Qu'elle prenne en main, que ce soit une génération d'entrepreneurs audacieux, maîtres de l'île, indépendants. Voilà tout ce que je souhaite. Et je pense que c'est possible.
Eh bien, on va s'arrêter sur ce mot optimiste. Merci beaucoup, Marie-Reine Dejam, d'être venue nous parler de ce nouveau roman que vous publiez, L'héritière de la Grande Béquée, qui paraît donc 36 ans après votre premier roman, qui avait ouvert la voie à cette saga, qui paraît chez Caraïbes Éditions. Merci encore.
Merci à vous.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.